On va démarrer notre soirée avec deux interventions. La première d'Anastasia Tsavidopoulou qui s'intitule « Durée de la séance, durée de l'analyse ». Anastasia Tsavidopoulou qui est psychanalyste à Paris. Hein. Et ensuite, on écoutera l'exposé de Carlos Guevara. On redira son titre. Très bien.
La question se pose dans l'argument, en passant du temps freudien au temps lacanien, comment penser ce temps dans une pratique psychanalytique où le retour à Freud opère dans la durée des séances et par conséquent dans la durée de l'analyse. J'ai commencé mon analyse avant mes 30 ans. Il fallait être dans les temps, car en croire Freud, une femme est inanalysable après ses 30 ans. À l'époque, j'étais loin d'imaginer que les rapports au temps dans les séances redéfiniraient mes raisons d'entrer en analyse, d'y rester, même si très souvent sceptique, je me demandais si j'avais bien fait de commencer. Ceci redéfinirait ainsi mes rapports au temps qui passe, qui manque, qui échappe, au temps qui dure trop ou pas assez. Dit autrement, c'était une rencontre avec le temps et la parole, pas loin de ces vers, le roi prend tout mon temps, je donne le reste à Saint-Cyr, à qui je voudrais le tout donner. Donner le reste quand on a tout donné, c'est un pari dans une dialectique où le temps est pris par et dans la parole. Du temps freudien. Partons de la découverte freudienne, celle de l'inconscient, qui suit la vieille tradition médicale du XIXe siècle, selon laquelle la prescription de la parole du médecin est plus importante que celle du traitement. Freud, déjà dans l'esquisse, soutient les rapports de l'homme avec le langage et prête l'oreille à la parole du patient qui révèle un savoir insu, un savoir inconscient que le sujet détient et ignore. Ce rapport entre langage et inconscient chez Freud, Lacan le souligne en affirmant « Il suffit d'ouvrir Freud à n'importe quelle page pour être saisi du fait qu'il ne s'agit que de langage dans ce qu'il nous découvre de l'inconscient. » Pour Freud, l'inconscient ne reconnaît pas le temps. Les processus du système inconscient sont intemporels, écrivait-il en 1915. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ordonnés temporellement, ne se voient pas modifiés par le temps qui s'écoule, n'ont absolument aucune relation au temps. Pourtant, il soutient que l'inconscient intemporel a besoin du temps, et ceci pour instaurer la relation du transfert et son interprétation, renforcer l'association libre et le déchiffrage, et ainsi l'émergence de la vérité. Je les cite, 1913. Le premier but du traitement consiste à attacher le patient au traitement et à la personne du médecin. Pour assurer ses besoins, on n'a rien d'autre à faire que de lui donner du temps. Freud construit la fameuse métaphore archéologique selon laquelle l'histoire du patient n'est pas fixée sur les événements du passé. Le déchiffrage des symptômes permettrait un retour à cette histoire et une réécriture. Voilà ce qu'il écrit à Fliss en 1896. Je travaille sur l'hypothèse que notre mécanisme psychique s'est établi par stratification. Les matériaux présents sous forme de traces mnésiques subissent de temps en temps, en fonction de nouvelles conditions, une réorganisation, une réinscription. Fin de citation. Ceci propose une autre temporalité qui ouvrirait une dialectique entre la réalité de l'histoire et la vérité du patient. Freud tâche d'établir la technique psychanalytique et de poser le cadre de celle-ci avec un recueil de textes écrits entre 1904 et 1915. Dans ce cadre-là, le temps dans l'espace de la psychanalyse les préoccupe. Il estime qu'il faut préserver une heure déterminée, pendant laquelle lui, médecin, serait disponible pour son patient. donner du temps au patient sans pour autant mettre une règle précise sur la durée de la séance. Les séances variaient entre 50 minutes et une heure, et souvent Freud consacrait les dernières minutes à la réflexion et à la prise de notes. Quant à la durée de l'analyse, elle était de quelques mois. Freud était aussi soucieux de l'espace entre les séances, dans le but de ne pas isoler la vie réelle du patient de son analyse. Je le cite. « Lorsque les séances sont trop espacées, on court le risque de ne pas marcher du même pas que les incidents réels de la vie du patient et de voir l'analyse perdre son contact avec la réalité et s'engager dans des voies latérales. L'analyse devrait suivre la vie du patient et ainsi, pourrait-on dire, le champ des signifiants qui l'accompagnent. Est-ce que le risque de s'engager dans des voies latérales évoquait pour Freud le risque de maintenir le patient dans une activité intellectuelle, dans la sphère imaginaire, loin des enjeux de l'élaboration de l'inconscient. Deux postulats donc à retenir en suivant Freud. Premièrement, cette double lecture de l'inconscient. L'inconscient, qui ne reconnaît pas le temps, en a besoin pour permettre au patient d'associer librement dans la relation transférentielle, même si ce n'est pas le temps chronologique qui imposera une interprétation. Interrompre le temps de la séance signifie pour Freud interrompre l'association libre et par conséquent le travail de l'inconscient. Deuxièmement, l'analyse et la vie doivent marcher ensemble. Le patient est pris dans la chaîne signifiante qui organise et ordonne sa réalité. Autant lacanien. Cet Lacan, dans les années 50 et son retour à Freud, le précise ainsi dans son premier séminaire en 1954. Le transfert, c'est le concept de l'analyse parce que c'est le temps de l'analyse. Et il poursuit dans Position de l'inconscient, quelques années plus tard, en 1960, le transfert est une relation essentiellement liée au temps et à son maniement. Fin de citation. Le transfert, lié au battement de l'ouverture et de la fermeture de l'inconscient, demande un maniement du temps pour faire sortir le sujet du temps chronologique de l'horloge et de l'introduire en temps grammatical, en temps historique avec un Y, en temps logique tel que Lacan l'a introduit. Si pour Freud le temps est le pivot de la relation transférentielle, pour Lacan, l'inconscient, traduit par les sujets supposés savoir, prend corps dans l'expérience analytique, dans la séance, en présence de l'analyste. Le maniement du temps s'effectue pendant la séance, même si l'inconscient continue à travailler en dehors. Qu'est-ce qu'une séance ? Qu'est-ce qu'une séance lacanienne, sinon une séance pour porter sur le maniement du temps lié au transfert ? Sa durée et sa fin ne sont pas déterminées par le temps chronologique, mais par des scansions qui viennent ponctuer autre chose que ce qui est dit. Ceci conduit à des séances en temps variable ou à des séances dites courtes. Je ne ferai pas ici de distinction entre séances courtes et séances en temps variable. Une séance lacanienne, d'après mon expérience, est une séance qui n'est pas déterminée par la régularité de sa durée. Pourtant, Lacan, les dernières années de sa vie, a pratiqué des séances courtes, voire très courtes, comme plusieurs de ses analysants témoignent. La question se pose d'autant plus que la pratique des séances courtes est devenue une pierre de rebut ou pierre d'angle, selon l'expression de Lacan, point sur lequel il n'a pas cédé et qui l'a conduit à son exclusion de l'IPA. La séance lacanienne est définie par la scansion, effet de ponctuation ou de coupure. Si l'inconscient a besoin du temps pour se déplier, se poser, comme Freud le soutenait, la scansion pointe les éléments désordonnés de l'inconscient pris dans la parole du sujet, dans le flux de conscience. La scansion, moyen d'interprétation, agit soit pour faire entendre et extraire un dire, une signification noyée dans la chaîne signifiante, faire résonner une équivoque, soit pour interrompre la série des dits avec un effet de surprise, un effet d'énigme, et relancer l'association libre. Interrompre le temps de la science ne procéderait pas, comme Freud l'indiquait, d'une interruption de l'association libre et de l'élaboration de l'inconscient. Cela procéderait au contraire par un effet de surprise, d'un réveil de l'inconscient, d'un travail de l'inconscient même en dehors de la science. Il s'agit de faire sortir les sujets de la position confortable et endormie du discours pour accoucher la parole, selon l'expression de Lacan, et révéler un dire, faire émerger un bout de vérité. Soulignons un paradoxe. D'une part, nous avons la régularité stricte des séances, ce que Lacan appelait la régularité quasi-bureaucratique d'un pacte préalable. D'une manière quasi-mécanique, l'heure et le nombre de séances dans la semaine se répètent de façon peu surprenante. Et de l'autre, nous assistons par la scansion et ses effets sur l'ouverture de l'inconscient, à l'inconfort de sa position, au manque de tranquillité qui nous oblige à sortir du confort du « je ne vais rien savoir », à renoncer au bavardage et par conséquent à une partie de notre jouissance pour confronter le réel qui nous divise. Ce qui est attendu dans la séance, c'est justement ce qu'on refuse à attendre, de craindre d'y trop mettre le doigt. La surprise, faisait remarquer Lacan en 1953. Cet effet de surprise, de rencontre du temps et de la parole dans la séance, n'est possible, me semble-t-il, que si le pacte de la routine bureaucratique est respecté. Si cette routine bureaucratique est ordonnée par le temps chronologique, le moment de la coupure et de l'interruption de la séance révèle les conséquences d'un dire, tout dire n'est pas égal. C'est dans le croisement de ce paradoxe, de la répétition standardisée avec la surprise de l'imprévu dans le flot de la parole, que l'inconscient peut se déplier, se réveiller. Ce paradoxe en suit bien d'autres. Celui des séances courtes, d'une analyse souvent longue, ainsi que celui de la réduction de la durée de l'analyse dans la procédure de la passe, comme Marc Strauss le souligne dans l'affiche du séminaire. Quelques questions avant de conclure. Si Freud propose une autre temporalité que la temporalité historique du patient, Lacan opère par un point de rupture, un retour au temps freudien. La séance lacanienne, déterminée par des scansions, suivrait-elle une certaine logique de l'inconscient ? L'inconscient, qui ne suit pas un temps linéaire, est déterminé par une discontinuité. Il est pulsation temporelle, un battement de fermeture et d'ouverture. Dans ces battements, un signifiant, un lapsus, un mot d'esprit jaillissent, un sursaut du sujet de l'inconscient émerge avant que celui-ci retombe dans le refoulement. La scansion suivrait la logique de l'inconscient, celle de sa discontinuité. Suivre la logique de l'inconscient en temps lacanien signifie la suivre par scansion, ponctuation et coupure. La séance en temps variable, la séance courte, pose l'arrêt et la fin par un acte de coupure, une ponctuation heureuse, dit Lacan, qui donne son sens au discours du sujet. Il poursuit, c'est pourquoi la suspension de la séance, dont la technique actuelle fait une halte purement chronologique et comme telle indifférente à la trame du discours, y joue le rôle d'une scansion qui a toute la valeur d'une intervention pour précipiter les moments concluants. Comment entendre les moments concluants ? Ces moments où un dire peut surgir ne s'additionnent pas pour former une conclusion finale. Ils ne constituent pas une progression qui donnerait la somme d'une opération. Si la ponctuation nous fait entendre le texte en lui donnant de la couleur, si l'acte de coupure le scande pour précipiter les moments concluants, s'agit-il d'une précipitation momentanée face à la difficulté de conclure, face au savoir d'un impossible, impossible à dire, impossible à écrire? L'aspect concis et laconique des témoignages dans les cartels de la passe ne reflèterait-il pas le fait que la cure procède par réduction et non pas par accumulation? Sujet, nous sommes pris dans notre réalité historique et temporelle, marquée par les signifiants qui nous déterminent. Lacan semble suivre Freud. La psychanalyse ne peut pas être séparée de la vie. Et il écrit en 1967, Lacan, « L'interprétation dont s'opère la mutation psychanalytique porte bien là où nous le disons, sur ce qui la réalité la découpe, de s'y inscrire sous les espèces du signifiant. » Fin de citation. Si les moments concluants ne s'additionnent pas pour former une conclusion finale, il participe par l'acte de coupure et la mutation psychanalytique à la constitution d'un savoir nouveau, un savoir incomplet face à la défaillance de l'autre. L'acte, souligne Lacan en 1967, est un acte parce qu'il n'a pas besoin d'être pensé. Et si c'est un acte, c'est justement parce qu'on peut le penser qu'après. C'est après, conséquence de l'acte, dure. La fin de la séance est une fin qui continue. Ceci fait qu'il faut du temps pour constituer un savoir, en l'amenant jusqu'à ses derniers retranchements, et ainsi faire avec le réel, produit du travail de l'inconscient. Manier le temps signifie suivre la logique et le déploiement de l'inconscient dans une durée qui ne peut être que longue. Je dirais que la rencontre avec le temps dans la séance était pour moi une rencontre avec le temps lacanien, un temps imprévisible et décalé. Ce temps d'escension s'est produit dans cet après de l'acte qui dure et suit ainsi la logique de l'inconscient et les lois du langage. C'est cette rencontre qui m'a permise de poursuivre et surtout de supporter une analyse. C'est cette rencontre avec le temps lacanien qui m'a conduite à l'expérience de la durée, celle de l'expérience analytique.
Merci. Bien, merci Anastasia. On va entendre maintenant Carlos Guevara, psychanalyste à Paris, et qui va parler sur « Il faut le temps ».
J'ai intitulé mon exposé ce soir « Il faut le temps ». Et c'est ainsi que l'inconscient s'articule de ce qui de l'être vient nous dire, qui est une citation de Lacan, de Radiophonie, que vous trouvez dans les autres écrits. Vous allez voir que même si on ne s'est pas concerté, il y a pas mal de choses en fait, qui se retrouvent en fait, dans les deux textes et qui se répondent d'une certaine manière. En fait, au fond, on traite à peu près les mêmes sujets. C'est curieux parce qu'on ne s'est pas parlé. Je voudrais commencer ce soir par dire que j'ai apprécié la manière dont les collègues qui m'ont précédé cette année ont fait valoir l'incidence du temps logique dans la cure, voire dans leur cure. En ce qui me concerne, en ce qui concerne la mienne, je me contente d'une simple observation pour faire résonner les titres de mon intervention de ce soir. J'ai fait un voyage qu'au départ, j'imaginais comme les grands voyages de ma vie. Un voyage vers un autre continent, vers une autre langue, vers une part d'inconnu. Voyage, sans doute, vers mon analyse. Un bon obsessionnel, j'avais cru pouvoir anticiper les délais respectables pour accomplir mon programme. Je m'étais dit que Cicéron me permettrait de faire de longues études, d'obtenir plusieurs diplômes et de mener mon analyse bien plus loin que les collègues qui, à cette époque, rentraient dans mon pays après leur aventure française. Ce premier voyage a laissé sa place à celui que je considère, après coup, le vrai voyage, celui de mon analyse. Un des effets du travail analytique a été de faire tomber ces calculs d'un temps prédéterminé au profit d'un « il faut le temps » indéterminé. Ça fait au moins 16 ans et je suis resté. La critique du temps fixe. Il convient de rappeler que le débat sur la question du temps de l'analyse et la durée a occupé une place importante dans les mouvements de scission des années 50. Lacan s'y réfère longuement dans son écrit « Fonction et champ de la parole et du langage » de 1953. Il formule une critique exhaustive des conceptions dominantes à l'époque dans les mouvements psychanalytiques. Il épingle ainsi la théorie de l'analyse des résistances, la conception sur l'interprétation exacte et inexacte de Glover et l'utilisation de la durée fixe des séances. La visée de sa critique est de réaffirmer que l'analyse ne peut avoir pour but que l'avènement d'une parole vraie et la réalisation par le sujet de son histoire dans sa relation à un futur. Le maintien de cette dialectique s'oppose, dit Lacan, à toute orientation objectivante de l'analyse, et la mise en relief de cette nécessité est capitale pour pénétrer les aberrations des nouvelles tendances manifestes dans l'analyse. C'est dans ce contexte que les débats sur la conception du temps de la cure prennent un relief particulier. D'abord, en dénonçant les effets néfastes des interruptions des séances commandées par la montre, je cite Lacan, « Nous voulons en effet toucher un autre aspect particulièrement brûlant dans l'actualité, de la fonction du temps dans la technique. Nous voulons parler de la durée des séances. L'indifférence avec laquelle la coupure du timing interrompt les moments de hâte dans le sujet peut être fatale à la conclusion vers quoi s'est précipité son discours. » Voire y fixer un malentendu, sinon donner prétexte à une ruse rétorsive. Déjà à l'époque, souligne Lacan, on revendique que l'inconscient avait besoin de temps pour se révéler. C'est avec cet argument, en fait, que les post-freudiens justifiaient la durée fixe, disons, de 45 minutes. Formule avec laquelle il se montre d'accord, mais dit, lui, à condition d'interroger quelle est sa mesure. Cette question est aussi celle de la fonction de l'analyste, son opération. Lacan souligne que la réalité, quelle qu'elle soit de cet homme, en prend dès lors une valeur locale, celle d'une réception du produit du travail de l'analysant. L'analyste opère comme témoin de la sincérité du sujet, référence de son exactitude. Il participe de la fonction du scribe, mais il lui incombe également de ponctuer la dialectique du discours analysant. Donc, il fait ces références parce que les post-freudiens invoquaient la nécessité d'une durée fixe, disons pour mettre en valeur, disons pour assurer la neutralité de l'analyste. Donc c'est une manière pour Lacan de dire que la neutralité de l'analyste n'implique pas qu'il fait rien. Dans son discours de Rome, Lacan notait que cette discorde sur la durée des séances était située par ses adversaires sur un terrain sacré, revêtu d'un caractère tabou. Il ponctue ainsi l'usage religieux de la durée temporelle dans l'institution analytique. Il met en évidence qu'en renonçant à la valeur d'usage de la durée de la séance, l'analyste de l'IPA renonce à sa fonction en les déléguant aux aiguilles du temps chronologique. Plus tard, dans Position de l'inconscient, Lacan identifie l'inconscient comme une topologie de coupures et de bords dont la fermeture de l'inconscient vient démontrer les noyaux d'un temps réversif. Je le cite, « L'après-coup, selon lesquels les traumas s'impliquent dans les symptômes montrent une structure temporelle d'un ordre plus élevé. Cette structure temporelle d'un ordre plus élevé implique que l'analyste assume que le transfert est une relation essentiellement liée au temps et à son maniement. Elle exige qu'au lieu de faire l'impasse sur la durée, qu'il en ait une juste apperception. Dès lors, le maniement du temps ne dépend pas du temps de la mesure dans un univers de précision chronologique, mais il obéit à une logique de calcul qui signe une position subjective. À la fin des fonctionnements de la parole, Lacan indique que cette conception de l'inconscient et du temps et qui répond à la topologie de l'anneau ou du tore, je le cite, « ce schéma satisfait à la circularité sans fin du processus dialectique qui se produit quand le sujet réalise sa solitude, soit dans l'ambiguïté vitale du désir immédiat, soit dans la pleine assomption de son être pour la mort. » nous permet aussi de saisir la condition de la termination d'une analyse. Je le cite à nouveau, « mais l'on y peut saisir du même coup que la dialectique n'est pas individuelle et que la question de la termination de l'analyse est celle du moment où la satisfaction du sujet trouve à se réaliser dans la satisfaction de chacun. » Dans son discours de Rome, Lacan propose une notion conceptuelle, un opérateur pratique, visant à obtenir ce qu'il appelle une parole qui dure. C'est la ponctuation. La suspension de la séance n'est plus, disait Lacan, n'est pas être éprouvée par les sujets comme une ponctuation dans son progrès. Disons nécessairement l'interruption de la séance, disons, fait ponctuation du progrès de la cure. La durée est standard, la durée mesurée, c'est d'ici la place devant la ponctuation. La visée de l'analyste étant celle de briser les discours pour accoucher la parole. Les temps et la durée. Cette conception du temps permet à Lacan de les distinguer de la durée. Il se réfère à Bergson pour mieux faire sentir la différence. Ainsi, dans le discours de Rome, il indique, je le cite, « aussi bien la restauration nepsique instaurée par Freud comme la fin de l'analyse ne saurait-elle être la continuité des souvenirs purs imaginés par Bergson dans son intégration mythique de la durée ?» Mais la péripétie d'une histoire marque des conscients où l'essence ne se suspend que pour se précipiter vers l'issue féconde ou ruineuse de ce qui fut problème ou ordalie. Si Lacan se réfère à Bergson, c'est qu'il pose, Bergson, la question, qu'est-ce que c'est que la durée au-dedans de nous ? Ça, c'est une question que vous pouvez retrouver dans un test de Bergson qui s'appelle « Essai sur les données immédiates de la conscience ». Pour Bergson, la durée est essentiellement, je le cite, « une continuation de ce qui n'est plus dans ce qui est ». Voilà le temps réel, je vais vous dire perçu et vécu. Voilà aussi n'importe quel temps conçu, car on ne peut concevoir un temps sans se le représenter, perçu et vécu. Selon cette psychologie de la conscience, la durée est succession et non simultanéité. La durée est une succession vécue et perçue intrinsèquement par l'homme vivant. Le temps de la mesure, en revanche, est celui de la simultanéité, qui est aussi spatialisation du temps. C'est un temps inessentiel. Je cite Bergson, c'est un temps qui se projette dans l'espace par l'intermédiaire du mouvement. Pour Bergson, le temps de la mesure, cet temps quantité, s'oppose à l'élément essentiel et qualitatif du temps, c'est-à-dire à la durée pure qui ne se mesure pas, parce que cette durée qualité, celle que la conscience atteint immédiatement est chose réelle pour la conscience qui en conserve la trace. La durée pour Bergson est, je le cite, l'étoffe de notre être, en même temps que murmure ininterrompu de notre vie profonde. Lacan est très critique de cette conception. De 1946, dans Propos sur la causalité psychique, il dit « L'œuvre de Bergson est la dilettante synthèse qui a satisfait aux besoins spirituels d'une génération et un assez curieux recueil d'exercices de ventriloquie métaphysique. » Lacan considère que cette durée est imaginaire. Elle n'est que l'image du temps. Dans les séminaires sur les psychoses, il réfute encore cette conception en disant « On s'imagine qu'il faudrait restaurer totalement les vécus indifférenciés du sujet. La succession des images projetées sur l'écran pour les saisir totalement dans sa durée, à la Bergson. Ce que nous touchons cliniquement n'est jamais comme cela. La continuité de tout ce qui a vécu un sujet depuis sa naissance n'étant jamais à surgir, et ça ne nous intéresse absolument pas. » Il ajoute, « Tout ça est à prendre au pied de la lettre. Il ne s'agit pas de comprendre ce qui se passe là où nous ne sommes pas. Il ne s'agit pas de phénoménologie. Il s'agit de concevoir et pas d'imaginer. » La durée que les standards de l'IPA tentent de neutraliser répondent à cette durée à la Bergson. Durée qui n'est qu'image du temps, de cet homme symbolique dont le sujet du manque à être fait l'épreuve réelle. C'est la raison pour laquelle, dans Radiophonie, dans sa réponse à la question 4, Lacan affirme « La durée, contrairement à ce qu'il dit Bergson, n'est pas l'étoffe de l'être, parce que si l'inconscient s'articule de ce qui de l'être vient nous dire, ce qui du temps lui fait étoffe, n'est pas un prâne imaginaire, mais plutôt d'un textile où ne dirait rien que des trous qui se trouvent. » On voit bien donc que Lacan déploie une conception du temps qui ne relève pas de la mesure chronologique, qui ne tient pas compte de la dimension signifiante de l'inconscient. On peut identifier deux fils pour repérer l'opération de l'analyste et son incidence sur la durée des analyses. D'un côté, comme on l'avait bien souligné Anastasia, d'un côté, l'émaniement de la durée de la séance en tant que ponctuation du discours de l'analyson, coupure, esconsion, brisure. De l'autre, celui qui concerne la durée d'une analyse, il se situe plus du côté d'un « il faut le temps ». C'est « faut le temps », dit Lacan, c'est l'être qui sollicite de l'inconscient pour y faire retour chaque fois qu'il lui faudra. Oui, faudra le temps. Il s'agit là de l'analyste qui met en jeu encore une fois de plus. On peut identifier une sorte de tension entre la durée de la séance qui se situe dans l'opération de l'escension et celle de la durée de l'expérience comme telle, qui la prolonge, qui donne le temps à la possibilité de répétition. Cette tension est aussi celle qui existe entre les symptômes, qui institue l'ordre dont s'avère notre politique, comme le dit Lacan dans Litour à terre, et l'interprétation qui définit les modes d'intervention à l'intérieur de cet ordre. Les foltons de ces faire à être de radiophonie passent par les symptômes, par en se faire aux symptômes, comme disait Freud, d'établir une nouvelle relation avec la maladie. La fin de l'analyse exige, comme préalable à cette nouvelle relation, que l'essence du symptôme soit déchiffrée, que sa signification fantasmatique ait perdu consistance. C'est le point sur lequel intervient l'interprétation. Mon propos de ce soir ne pourrait pas aborder tous les axes que cette distinction de la durée et du temps permettrait. Mon mon ambition est seulement de faire sentir que toute référence à la durée des analyses en termes chronologiques constitue une méconnaissance de la temporalité de l'inconscient, temporalité purement signifiante. L'analyste se prête donc à soutenir une expérience pour produire, je cite Lacan, ce qu'il faudra de ce qu'il faut le temps. C'est la faille dont se dit l'être. Le temps qu'il faudra au sujet pour dire sa faille, son manque à être. Avec cette proposition, celle de radiophonie, Lacan pointe une satisfaction nécessaire à la fin de l'analyse. La satisfaction d'un dire qui rend compte de la faille à partir de laquelle le sujet peut se dire lui-même. Pendant la rédaction de cette intervention, les souvenirs d'un petit garçon qui est venu me voir pendant quelques années n'a pas cessé de revenir à mon esprit. Je me souviens que lors de sa dernière séance, il m'annonce que ça sera la dernière fois. Je lui demande la raison et il me répond. C'est la dernière fois parce que j'ai compris que mon père a souffert de la séparation d'avec ma mère, qu'il a un problème avec l'alcool, que je lui ai déjà dit qu'après 3 bières, ce n'est pas bon pour lui. Mais j'ai compris aussi que je ne peux rien faire d'autre pour lui. Il doit trouver sa propre solution. Je lui retourne. Alors, tu as tout compris. Et avant de partir, il se retourne encore pour ajouter. Mais je sais aussi que si j'ai besoin, ta porte restera ouverte. Encore une fois, je lui ai répondu, tu as tout compris. Voilà. Merci.
Merci, Carlos.